qui essaye de nous enfermer sous-estime la colère du dollar.
Je voulais les faire payer, ces bâtards qui nous ont piétinés. C'est toujours la même à l'heure qu'il est, ils prennent les familles pour des serpillères.
Pour les grosses peines, les potes libérables, et ceux qui portent le bracelet. Pour les Elvira qui passent le portique, et ceux qui font tout rentrer.
Parce qu'on a tous des proches qui sont ou qui ont été emprisonnés. Un frère, une voisine, une camarade de lutte ou un cousin. Parce que parfois, on a vraiment la rage contre la prison.
Dedans c'est dur, et dehors c'est dur aussi. C'est sorti c'est sûr, le SS et le Mirador me gâchent nos vies.
A chaque jour suffit sa peine, moi je respire à peine.
Les caves et les sirènes montant, que ce soit à Fleury ou à Fren, le temps fait la peine et moi je traîne seul dehors.
Parce que la police et la prison sont des menaces racistes. Parce que quand on se tape une embrouille avec l'administration pénitentiaire, on peut avoir envie d'en parler. Parce que ça nous renforce d'écouter les témoignages des autres.
Armé de peine, j'étais sur le banc, ils m'ont pété, je suis aux arrivants, fin de.
Parce qu'on n'en peut plus d'entendre que la prison nous protège.
Politiqueur dehors, petit frère emprisonné.
Je me demande quoi écrire dans mes lettres, qui passera sous la censure, on fera rire. Une heure pour se raconter des bouts de vie, à bout de souffle.
Parce que les parloirs sont souvent trop courts.
Pour les gars de Gide Versailles, pour les gars de Villepinte, et pour toutes ces visiteuses de parloirs qui font rentrer le sucre et l'espoir, otages des mêmes portes et couloirs, des mêmes petits pouvoirs.
Parce que la radio permet de communiquer par-dessus les murs de la tôle. Casse-muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. En direct jusqu'à 18h30 sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Bonjour, bonjour. Vous êtes bien sur Prune 92 FM et on se retrouve comme chaque vendredi à 18h pour Casse-Muraille, l'émission anticarcérale. On pense bien à tout le monde dans ces grosses chaleurs. On espère que les ventilos fonctionnent dans les cellules et on pense à ceux qui sont bloqués derrière des caillebotis. Aujourd'hui dans l'émission, on voulait parler, on est parti d'une affaire, on va vous en dire plus après et on voulait faire comme on fait tout le temps dans l'émission, mettre un peu en lumière comment l'État développe de plus en plus d'outils de répression pour contrôler nos vies. Et donc dans les studios aujourd'hui pour ce faire, il y a Zoé au micro.
Salut, salut.
Gaëlle.
Bonjour.
À moi-même, Clara, et Tim à la Réal.
Salut.
Pour partager ton histoire, dénoncer ce que tu affrontes ou tout simplement envoyer de la force à l'intérieur, appelle et SMS au 07 82 98 43 59.
Donc comme Clara l'a introduit tout à l'heure, on va parler de l'affaire, une affaire très complexe qui est l'affaire des Antifas de Budapest. Et pour ce faire, je vais commencer par lire la première page de la BD qui s'appelle « La nuit sera longue » de Zéro Calcari, qui en fait a fait un récit de tout ce qui s'est passé depuis février 2023. La première page, c'est une histoire compliquée dans laquelle sont impliqués des Hongrois, des Allemands et des Italiens, mais aussi un tas d'autres nationalités, de communautés, de courants. C'est une histoire de violence, de victimes, de bourreaux et du récit qu'on en fait, d'éthique et de moralisme, de vrais procès et de délire médiatique. Mais si on va à l'essentiel, au fond du bruit, c'est une histoire de nazis, de tôle et de responsabilité. Donc en fait, l'affaire de Budapest, c'est une corrélation d'un grand mouvement de répression dans toute l'Europe entière qui a devenu suite à une manifestation de néo-nazis, fascistes donc, à Budapest en février 2023, qui s'appelle le Jour de l'Honneur. Et en fait, durant ce jour, il y a des centaines de fascistes de toute l'Europe qui se réunissent pour faire une sorte de remake des SS, en fait, avec tous les apparats, les costumes, des chansons, tout un tas de choses qui, en fait, reprennent les mêmes éléments que dans les années 40, quoi. Donc c'est assez sordide. Et en réponse à cette manifestation-là, il y a une contre-manifestation qui s'est organisée de militants antifascistes pour contrer et essayer de sûrement faire annuler cette manifestation-là qui dure en fait plusieurs jours avec des concerts. Enfin, c'est vraiment sous la forme de festivités, ce qui rend le truc vraiment dégueulasse, quoi. Encore pire que le CNFM de Paris. Le CNFM, c'est le comité de 9 mai. Donc, on a notre sorte de Budapest à nous, en fait, en France. Et ils se réunissent en France début mai, en fait. C'est le comité du 9 mai et ils se réunissent pour honorer la mémoire de Sébastien Desieux. C'est un mec fasciste qui est tombé d'un toit pour, en espérant fuir la police et qui est mort sur le coup. Enfin bref, et en fait, tous les ans, à Budapest et à Paris, c'est pas du tout corrélé, hein, les événements. Ils se réunissent tous ensemble pour célébrer leurs idées nauséabondes, en fait. Donc voilà, et nombreux sont ceux, celles-là en tout cas, qui veulent contrer ça. Et qui ont subi la répression. Voilà. Donc nous, on voulait, si je ne me trompe pas, on voulait se focaliser sur l'aspect européen en fait, de la chose et voir comment les États ont réagi, parce qu'ils sont plusieurs accusés, il y en a des dizaines, et ils ne risquent pas les mêmes choses, ils n'ont pas eu tous les mêmes chefs d'inculpation, et ce n'est pas du tout traité à la même échelle, en fait.
Du coup, qu'est-ce qui s'est passé là à Budapest? Donc, tu dis qu'il y a eu la journée de l'honneur là. Et il y a eu quoi? Il y a eu une contre-manifestation?
Oui, c'est ça. En fait, ils ont essayé de se beuler un peu ce qui se passait. Et ils ont subi les conséquences quoi, de cette tentative.
Ouais, en fait, ça paraît important de s'organiser contre des événements mis en place par des néo-nazis. Parce qu'on est contre leurs idées qui sont nationalistes, racistes.
Homophobe et tout ce qui s'ensuit vraiment. Peut y aller. Oui.
Mais aussi parce qu'on voit bien que le fascisme, donc c'est une idéologie, mais qui est aussi très prégnante dans les États et donc comment ils s'organisent les États. Et que donc en laissant ces idéologies se normaliser, on voit aussi qu'à l'échelle de l'État, c'est des politiques qui se mettent en place. Et, donc on en parle assez souvent dans l'émission, notamment quand on parle de la lutte contre le CRA. Mais donc c'est vrai que ça paraît important de se mobiliser.
Oui, en France, là, les mobilisations nazies ou néo-nazies, jusqu'à récemment, étaient quand même quelque chose d'interdit et de pénalisé. Là, ça devient quand même, on sent, de plus en plus souple. Il y a de plus en plus de marge de manœuvre pour exprimer son appartenance à des mouvements néo-nazis. Et la caractéristique, là, en Hongrie, c'est que le gouvernement est lui-même d'extrême droite. Et du coup, soutient et finance les manifestations néo-nazies. Et du coup, les antifascistes sont considérés comme des opposants au régime.
Oui.
Il y a toute une campagne là, en Hongrie pour dénigrer les antifascistes et pour en faire comme un problème d'État. En fait, il y a une mobilisation aussi des médias pour décrire les antifas comme un fléau qui viennent troubler la tranquillité, qui viennent troubler les manifestations des honnêtes gens en Hongrie. Et que du coup, grâce à ces mandats européens, la Hongrie elle peut bénéficier de la coopération judiciaire de l'ensemble de l'Europe pour traquer ses opposants politiques partout où ils se réfugient. Quoi.
En fait, ils ont organisé une grande chasse aux sorcières dans toute l'Europe en criminalisant les antifas. Et en les rendant comme les seuls fautifs en fait de ce truc et voilà sous couvert de d'organisations criminelles, sous couvert de troubles à l'ordre public en fait et de ouais fauteurs de troubles enfin soi-disant pardon.
Oui, donc en fait il y a une coopération de toute manière entre les États dans leur puissance répressive donc qui permettent à un État qui veut arrêter quelqu'un qui se trouve sur le territoire d'un autre État de réclamer en fait que l'état du territoire sur lequel se trouve la personne l'arrête et l'extrade vers le pays. C'est organisé par des régimes légaux. Donc soit il y a des conventions bilatérales entre deux États, soit il y a des conventions multilatérales notamment qui sont faites à l'échelle de l'ONU. Et sinon, en France, il y a le code de procédure pénale qui vient s'appliquer et qui a des... Enfin, c'est des procédures assez lourdes, mais qui existent et qui permettent aux États de décider que là, les gens peuvent passer les frontières selon ce qui les arrange. Donc, dans le cadre de l'Union européenne, depuis l'ouverture des frontières, les dirigeants de l'Union européenne se sont rendus compte que les gens pouvaient passer la frontière plus facilement, donc échapper à la justice d'un pays. Et donc, évidemment, c'est un problème pour les États. Et donc, ils ont mis en place ce qu'ils appellent le mandat d'arrêt européen. Et donc, c'est une procédure d'extradition, mais qui est banalisée à l'échelle de l'Europe et qui rend les extraditions beaucoup plus faciles. Et donc, la Hongrie étant dans l'Union européenne, notamment en France, il y a eu toute une mobilisation pour Gino, qui était un des militants antifascistes dans l'affaire de Budapest, qui s'était réfugié en France et qui a donc été arrêté par la police française parce que la Hongrie le réclamait.
Oui, quand on préparait l'émission, là, on se demandait si on devait rentrer dans les détails un peu juridiques là, des mandats européens. On se doute que parmi vous qui nous écoutez, il y a des gens qui ont dû aussi subir ça. Il y a forcément des gens là, dans les prisons autour de Nantes qui ont été suite à des mandats européens, parce que c'est pas si rare que ça. Il y en a à peu près 20 000 par an. Donc c'est pas 20 000 qui concernent la France, hein, c'est dans tous les sens, depuis tous les pays et tout ça, mais ça en fait quand même un bon paquet par pays. On sait qu'en prison, les gens qui sont confrontés à des affaires comme ça, ils finissent par devenir un peu experts, des fois juridiques, sur certains points. Il y a peut-être des gens qui maîtrisent ça beaucoup mieux que nous. Mais quand même, moi, ce que j'en ai retenu, par différence avec les extraditions pour les pays hors de l'Union européenne, c'est que pour les extraditions, c'était du domaine du ministère de la Justice. Et du coup, c'était un décret ministériel qui choisissait l'extradition. Et là, dans le cadre de l'Europe, il n'y a plus du tout l'exécutif qui rentre en jeu. C'est le fait d'envoyer les gens vers les pays qui les réclament, c'est la règle. Et c'est simplement un tribunal qui va valider que toutes les conditions sont bien réunies et qui, éventuellement, sous certaines conditions, peut refuser l'extradition. Donc c'est ça un peu la particularité dans l'Europe. Mais du coup, ça fait toute une machine peut être dirigé facilement contre les gens avec des très gros moyens. Là, vous parliez de Gino. Lui, c'est la SDAT qui l'a arrêté avec les moyens qu'on connaît à la SDAT, la section antiterroriste.
Mais en fait, à l'origine, cette affaire-là, du coup, de la Hongrie, le jour même, du coup, le 9 février 2023, a vu les affrontements et tout à Budapest suite à cette contre-manifestation-là. Et ils ont formé une commission spéciale autour de cette affaire-là, directement le même jour, en fait, pour identifier les auteurs de l'attaque et donc les juger par la suite. Et suite à ça, en fait, l'Allemagne a, elle aussi, ouvert une enquête avec le parquet de Dresde pour coups et blessures. Et en fait, ils ont utilisé le bureau central pour l'extrémisme de la Saxe, du coup. Donc voilà, et en fait, on voit que ça a tout de suite été d'envergure européenne, en fait, cette histoire-là. Et la chasse aux sorcières, elle ne s'est pas non plus limitée qu'à la Hongrie. La Hongrie, en fait, elle a quand même utilisé les images des personnes, enfin, les photos d'identité avec nom, prénom, pour retrouver cette personne-là et mettre des mises sur ces têtes-là. Elle a proposé 10 000 euros pour des informations. Enfin, c'est énorme comme somme pour favoriser la délation, quoi. Et il y a aussi, après, l'Allemagne qui s'est, suite à des perquisitions et tout dans plein de villes allemandes, l'Allemagne a, elle aussi, utilisé les images et les noms. Et elle est même allée jusqu'à afficher ça sur des écrans géants de pub. Dans tous les plus grands journaux allemands ont notifié ça. Et aussi via des notifications push sur les téléphones. C'est ça que je trouvais vraiment incroyable. Enfin, c'est le fait de vraiment avoir aucune limite en termes d'argent et de moyens pour retrouver ces personnes-là. C'est dire, peu importe, quoi qu'il en coûte, on les retrouvera. Et c'est vraiment l'image de la criminalisation que les antifas de cette affaire-là ont subi.
Oui, je pense à chaque fois, la proportion là, des recherches, ça, c'est directement lié à l'intérêt politique et médiatique qu'il y a. Dès qu'une affaire est un peu médiatisée, dès qu'elle est utilisée par la classe politique comme un sujet intéressant à parler pour eux, forcément les moyens derrière sont beaucoup plus gros, sans doute bien.
Oui, on pense à Mohamed Amra, du coup, qui a défrayé la chronique récemment et qui a été arrêté sous le régime d'un mandat d'arrêt européen en Roumanie et qui a donc eu une grosse médiatisation de son extradition en France et qui il me semble qu'il a été rapatrié en avion, enfin en jet, et donc pour être enfermé à Condé-sur-Sarthe.
Oui, en jet militaire, je crois, oui. Oui, c'est sûr. J'ai l'impression qu'on s'est dispersé un peu. En fait, on dit affaire, mais enfin, c'est pas vraiment nous qui disons ça. C'est la Hongrie qui a décidé d'en faire une affaire. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a cette manifestation néo-nazie à chaque fois, tous les ans, là, depuis plusieurs années. Et en fait, il y a eu une contre-manifestation, mais comme il s'en passe partout, à chaque fois qu'il y a des manifestations nazies ou des manifestations d'extrême droite, il y a eu... Moi, je n'ai pas trop les infos. Il y a eu effectivement sans doute des heurts à la fin des manifestations, mais qui ne sont pas forcément plus impressionnants que plein de moments de confrontation qu'il y a eu à plein d'autres moments. Et on dit les Antifa, comme si c'était un groupe de gens qui se connaissaient, mais en fait, c'est... pas forcément tous. Enfin, il y a des réseaux, Antifa qui participent à organiser la lutte contre le fascisme. Mais après, c'est pas un groupe de gens qui se connaissaient et qui ont fait des choses ensemble pendant ce truc. C'est plein de personnes individuellement qui ont été repérées par le gouvernement hongrois comme des fois ayant juste participé ou être soupçonné d'avoir participé à des contre-manifestations contre le fascisme ce jour-là. Et à partir de ça, c'est eux qui ont construit un truc où ils ont envoyé des mandats européens dans tous les pays d'Européens concernant plein de personnes différentes. Et peut-être on voulait détailler un peu les différentes personnes on se retrouve juste après. En fait, on va d'abord écouter une petite musique.
Ouais. Ce sera Galbi de Léna.
Qui va venir me dire qui je suis? Après tout le temps que j'ai mis à me trouver, y'a Galbi, Nesta, Fat Bic. Le vide autour de moi, j'ai besoin de respirer. Un peu trop sérieuse dans mes chansons, besoin de sourire et de dire merci. Merci. En concert, je me sens à la maison, Gaën, Estrani, c'est ça d'être en vie. Fuck, un facho tous les jours. Dada me dit que des vieilles du quartier la regardent mal. On m'a éduqué dans l'amour, mais papa met un middle à celui qui me parle mal. Moi, je suis trop fucked up, j'ai arrêté le pilon et la clope. Est-ce que dans ma chambre et pour la musique, je crois que je deviens folle. Fais peur aux garçons, m'en fous de la leçon. Est-ce que le monde je veux le manger? Mes dents ont-elles été assez aiguisées? Bien sûr que oui, je fais de la boxe thaï, gère mes attaques en bateau saï. Et je m'accroche au même rêve que j'avais quand j'étais môme, mais que déjà je savais. Et moi, tous mes amis connaissent les paroles quand mon tour arrive. Je me suis affaire, ministre, mon sous mon lit viennent de la vraie vie. J'ai pris tellement de temps à mes mecs, maintenant pour mon entourage, il va à donner. J'ai surmonté les épreuves que mon cerveau a bâti sans les mettre dans un doré.
Casse Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches.
Enfin, j'ai dit bonjour, j'ai déjà dit bonjour tout à l'heure, mais c'était pour vous dire que vous êtes toujours sur Casse-Muraille, on est toujours sur Prune, 92 FM, pour les gens qui nous écoutent directement à la radio. Et on voulait reprendre sur du coup, cette affaire des antifas de Budapest. Et on était en train de parler de parcours très individuels. Et en fait, de la part du gouvernement hongrois, il joue un peu sur les deux tableaux. Il y a à la fois le fait de construire une menace extérieure de gens qui viennent troubler les honnêtes gens dans leur commémoration néo-nazie. Et à la fois, ils font le choix de pas faire un seul procès, mais de faire des procès individuels pour chaque personne, pour gommer un peu aussi à la fois construire l'aspect collectif, mais le gommer un peu aussi et renvoyer les gens individuellement, chacun avec des procédures différentes, des chefs d'inculpation différentes. Voilà.
Oui, j'ai l'impression que c'est la stratégie justement des mandats d'arrêt. En fait, c'est nominatif et du coup, ça scinde toutes les personnes accusées. Du coup, ça leur laisse quand même l'opportunité de partir en cavale ou non. Il y a notamment 7 personnes qui sont remises aux autorités à cause des menaces, probablement. Parce que, par exemple, on a le cas de Maya, qui est une personne non-binaire, et on lui a promis que 14 ans, que 14 ans de ferme au lieu de 24. Et ça, ils appellent ça une négociation, quoi. Enfin, c'est vraiment complètement lunaire comme truc de dire, si tu joues notre jeu avec nos propres règles, t'auras la petite carotte, quoi. Et Maya, elle a refusé justement de jouer ce jeu-là. Et elle part du principe que pour 10 ans de plus, elle préfère se taire, quoi. Donc voilà. Mais en fait, en France, on a plus entendu parler du militant Gino, parce que c'est le seul, en fait, à avoir atterri en France. En tout cas, le seul à avoir été retrouvé en France. Il a passé plusieurs mois à Fresnes, 4 si je ne me trompe pas, et il a reçu beaucoup de soutien, de groupes de soutien divers et variés, mais notamment soutien à Gino, qui est un collectif français, du coup. Ils ont organisé des rassemblements, mais il y a aussi eu plein de il y a une pluralité en fait d'actions et de d'actes de solidarité qui a émergé dans toute la France pour montrer qu'en fait on soutient Gino, mais aussi tous les autres antifas, et on en a parlé tous ensemble. En fait, c'est chouette de soutenir tous les antifas, mais ça serait cool aussi de soutenir tous les prisonniers de la France entière et de l'univers entier, en fait.
Mais c'est ça, à Casse-Muraille, on n'est pas passé à côté de la campagne qu'il y a eu de soutien à Gino qui demandait sa libération, en fait. Et évidemment, comme pour toute demande de libération, nous, on est carrément derrière, on est OK, ça nous parle et tout comme campagne. Donc il s'agit de... Qu'est-ce que je voulais dire ?
Oui, ça nous parle, donc liberté pour tout le monde, quoi.
Voilà, ouais. On trouve ça bien aussi qu'à travers des cas qui les touchent, les gens se rendent compte que la prison, c'est un outil qui est contre nous et qu'il faut la combattre. Et donc, combattons-la pour tous les prisonniers qui, on le rappelle, sont tous des prisonniers politiques.
Totalement. Il faudrait passer outre ce concernisme un peu, de se dire on va se mobiliser parce qu'en fait ça pourrait nous toucher aussi, alors que en fait on peut tous être touchés par ça, en fait, dans cet état et dans ce système ultra capitaliste et répressif. Et je voulais notamment moi revenir sur le cas de Nanouk. En fait, Nanouk, c'est pareil, un inculpé dans cette affaire, et il a l'air d'avoir bien conscience de cet aspect là de la sorte de privilège qu'on peut avoir en tant que militant antifasciste incarcéré. Et je vais vous lire, si vous le voulez bien, un extrait d'une de ses lettres. Une de ses lettres qui a été en plus envoyée pour ses 100 jours d'incarcération. Donc elle a été écrite, en tout cas on l'a reçue le 8 mars, il me semble. Voilà. Et l'extrait commence par « Malgré mon attitude très optimiste, le contact avec ma famille et mes amis me manque. Même de simples étreintes physiques ne sont possibles que quelques secondes, les jours de parloir. » Donc il revient déjà sur ses conditions de détention personnelle. Pas d'échange, pas de soleil, pas d'étreinte physique. Au bout de 100 jours, cela fait quelque chose sur la psyché d'une personne. Mais tout cela, c'est plutôt une façon de me plaindre à haut niveau, car je suis déjà assez privilégiée ici, en prison. D'une part, je peux m'exprimer par la parole et par l'écrit, vis-à-vis des surveillants. Pour beaucoup de monde ici, ce n'est pas possible. Du coup, je remplis souvent des demandes pour d'autres détenus, je lis et synthétise des courriers judiciaires, et j'ai même déposé une plainte pour toute notre unité, auprès de la sous-direction de l'établissement. À cela s'ajoutent des avocats dévoués et un milieu politique et social qui me soutient beaucoup, ce qui est aussi invoqué comme raison pour mon risque d'évasion. Mille bisous, je vous aime pour cela. Et aussi une mère forte qui ne se laisse pas intimider. Tout cela n'est pas donné à tous les prisonniers ici, en tôle. Rappelez-vous donc, toujours, que la tôle n'est pas un trou dans lequel rien ne se passe et rien n'est possible.
Merci beaucoup pour cette lecture.
Et Gaëlle, tu voulais nous parler aussi d'un autre, de l'histoire d'une autre personne qui a été arrêtée en mandat d'arrêt, sous l'égide d'un mandat d'arrêt européen.
Oui, oui, je voulais parler surtout de ça parce que du coup, ça avait entraîné une lutte contre le concept même des arrêts. Des mandats d'arrêt européens. Mais on reste un peu dans nos travers. C'est vrai que nous aussi, on est à Casse-Muraille. Là, on est aussi des militants qui veulent bouger pour changer le monde. Et des fois, les affaires dont on entend parler, c'est les affaires aussi des gens qui sont médiatisés, des gens qui sont militants et tout ça. Et là, cette affaire-là, c'était par rapport à des indépendantistes du Pays Basque, et notamment Aurore Martin, qui participait, qui était militante du parti Batasuna, qui est un parti qui est autorisé en France, mais qui est illégal en Espagne, parce qu'il est considéré comme proche de l'ETA, le groupe armé. Et du coup, l'Espagne avait demandé à la France l'extradition par mandat européen d'Aurore Martin, alors que Aurore Martin était française. Et ce qu'on lui reprochait, c'était de faire partie d'un parti qui est légal en France. Mais pour ça, du coup, il y a eu une décision d'extradition. Pour la petite histoire, j'ai envie de vous raconter quand même. Mais du coup, elle a déclaré, quand elle a appris que la France allait donner suite à l'extradition, elle a déclaré qu'elle partait en cavale, qu'elle partait se cacher. Il y a eu une solidarité dans le Pays Basque où plein de gens, même qui ne la connaissaient pas forcément, annonçaient publiquement qu'ils étaient prêts à l'héberger quelque temps si elle avait besoin. Donc, elle avait tout un réseau à disposition pour se cacher. Et le jour où elle a décidé qu'elle en avait marre, parce que c'est quand même quelque chose de vraiment éprouvant, la cavale, elle a dit « bon, bah tant pis, je retourne chez moi ». Et en fait, il y a des militants qui étaient chez elle pour la soutenir. Et la police a essayé deux fois de venir l'arrêter et n'ont pas pu, parce qu'il y avait des centaines de militants basques qui étaient devant chez elle, à empêcher les flics de venir l'arrêter. Notamment, une fois là, en juin 2011. Et avant ça, il y a eu une grande chaîne humaine contre. C'était organisé par des militants basques, donc il y avait quand même en arrière-fond la défense des intérêts basques et le fait justement que les mandats d'arrêt européens, ils sont souvent utilisés par l'Espagne pour demander des gens qui sont en France. Mais du coup, il y a eu une chaîne humaine où il y a eu 1000 participants contre les mandats d'arrêt européens. Donc c'est la seule lutte que j'ai entendue qui était vraiment contre les mandats européens et contre tous les mandats européens, même s'il y avait un truc de mettre un peu plus en avant quand ça concernait le Pays Basque.
C'est chouette quand même de se mobiliser au sens large contre les mandats d'arrêt européens. Pardon.
Oui, carrément, parce qu'en plus, il me semble qu'on ne l'a pas précisé, mais du coup, est-ce que ça vient rajouter comme puissance de l'outil le mandat d'arrêt européen par rapport aux procédures d'extradition classiques? C'est que, tu l'as dit, mais il est pas, il s'impose aux États. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas décider pour des raisons diplomatiques ou politiques de pas le mettre en application. Et donc, le seul moyen de contester un mandat d'arrêt européen, c'est de montrer qu'il y a un risque pour les droits fondamentaux de la personne qui est concernée par le mandat d'arrêt européen. Et donc, tous les argumentaires juridiques qui tournent autour des libertés fondamentales, c'est pas du tout technique, c'est très subjectif. Enfin, les droits fondamentaux, ils sont rédigés d'une manière où ça laisse beaucoup d'interprétations. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus difficile à contester.
Il y a des règles pour les extraditions. Là, il faut que, pour pouvoir être extradé dans un pays en dehors de l'Union européenne, il faut que les faits qu'on te reproche soient illégaux dans le pays qui te réclame, forcément, mais aussi illégaux en France. Et ça, c'est des règles qui sont complètement assouplies dans le cadre des mandats européens. Et du coup, en mandat européen, on ne demande même pas... on peut être extradé vers un autre pays européen pour des faits qui ne sont pas illégaux en France ou pas du tout sous les mêmes proportions. Excusez-moi, je vais encore citer un exemple militant parce que c'est ça qu'il y a dans notre entourage. Mais il y avait aussi le cas de Vincenzo qui était réclamé par l'Italie pour des participations à la contre-manifestation du G8 à Gênes, très longtemps après, et pour des faits. Enfin, nous, ça nous a marqué aussi dans nos vies de militants, là, ce qui s'était passé à Gênes. C'était vraiment des très grosses mobilisations contre la réunion des plus grands chefs d'État du monde qui décidaient un peu du sort de toute la population. Et du coup, avec une répression très, très forte, des gens qui ont été réprimés très sévèrement sur place. Et de voir qu'il y a encore des poursuites qui se faisaient des dizaines d'années après, alors que la situation était finie depuis longtemps, ça a marqué beaucoup de gens aussi.
Ce qui est aussi accablant, je trouve, c'est le fait que y a rien qui change, en fait. Enfin, le G8, ça fait des années maintenant que c'est passé. Et l'affaire des Antifas de Budapest, elle vient confirmer ça, en fait. Elle vient confirmer le fait qu'il n'y a rien qui change. Et typiquement, Maya, du coup, la militante non-binaire, a été extradée en Hongrie. Et ça aurait peut-être été cool de parler un peu plus de son cas, mais malheureusement, on est un peu limité par le temps aussi. Et en fait, on voit que la prison, elle est incapable, en fait, de prendre en charge des personnes queer, parce que vu que c'est l'image la plus violente et la plus injuste du capitalisme, et on voit que le système n'est pas du tout fait pour traiter ces personnes, et c'est vraiment abject, quoi, la manière dont on les traite en prison.
J'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour de la question. Peut-être ça va être l'heure de se quitter, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter pour votre défense.
Je n'ai rien à déclarer.
Ok, alors on va peut-être se refaire un petit tour des contacts pour les personnes qui voudraient nous appeler ou nous écrire pour s'il y a une lutte à mener face à l'administration pénitentiaire ou témoigner de conditions qu'elles vivent.
Oui, nous, on galère un peu à se sentir en contact avec vous, là. On rappelle que vraiment, nous, on est demandeurs de ça. Si on fait l'émission, c'est aussi pour les gens qui sont enfermés, là, qui subissent la prison, pour parler de ces histoires-là. Là, par exemple, si vous voulez réagir à des sujets, si vous-même, vous avez été victime là, de mandat d'arrêt européen et que vous avez envie d'en parler ou que vous voulez apporter des précisions par rapport à ce qu'on a dit, faut pas hésiter à nous contacter pour ça. Nous, on sera vraiment très très contents d'être en lien, de pouvoir aussi rapporter des choses que vous avez vécues, des analyses que vous avez sur la question, enfin n'importe quoi, ce que vous avez à dire, n'hésitez pas. Franchement, nous, ça nous fait plaisir quand il y a des gens qui nous contactent.
Et du coup, on est joignable par téléphone au 07 82 98 43 59. 07 82 98 43 59. Sur le téléphone, on est joignable par les vieux réseaux téléphoniques, sinon Signal et WhatsApp. On est également contactable sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube et Blue Sky.
Et par TikTok. Courrier.
Et par courrier.
À B17, au 17 rue Bellamy, 44 000 Nantes, c'est ça?
Ouais. Exactement.
Pensez à préciser chez Casse-Muraille, chez B17. Et effectivement, c'est au 17 rue Paul Bellamy, 44 000 Nantes.
Et on va se quitter en musique. On vous dit à la semaine prochaine. Bon courage pour la semaine qui vient. Et on va écouter Combien ça coûte de Toam.
Au revoir.
Plutôt mourir que des diplômes et d'école de police. Plutôt mourir que des diplômes et d'école de commerce. On a volé ta caméra et c'était une Sony. Et c'est pour ça que les cops te connaissent. Combien ça coûte? Faut que je mange là, mais combien ça coûte? Combien ça coûte? Je sais que ça se vend ça, mais combien ça coûte? Ouais, c'est pas rentable, mais combien ça coûte? Hein? Combien ça coûte? C'est pas un drapeau blanc s'il y a du bleu dessus. Les colons, je les mange avec un peu de sucre. J'ai jamais eu peur de la guerre, la Palestine, c'est du cœur à la tête et du fleuve à la mer. Génération toute claquée, je vois des racelards, des fachelards. Toute l'année, il faut les aplatir. Et en full HD, ils ont un cœur pour haïr et des yeux pour chialer. Allez, 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 ça m'intéresse pas de faire bander toute la bourgeoisie. Très fier que des gens comme vous aient détesté mon projet. C'est toujours ennuyant de ramasser des procès. C'est toujours un plaisir de tabasser des nazis. Tu es un homme, on m'a mal éduqué. Je pouvais lutter, mais il fallait que je lève les yeux pour le voir. J'avais 12 ans, je comprenais pas les meufs autour de moi. Puis un jour, j'ai vu pourquoi on était mal réputés. Mais toi, t'as 20 ans, tu critiques des femmes.
je te donne même pas l'heure. Du fond tu compares comme si on subissait le même malheur. Si t'es pas son frère, sache qu'elle te détesterait ta sœur. Il t'appelle mon gars, moi je t'appelle le prédateur. Où est-ce que vous trouvez du temps pour être transphobe? Des vieux messieurs qui regardent dans les transports. Faut les filmer, les humilier, c'est grand port. Mettre leur tête sur les rails si vous êtes en forme.
Plutôt mourir que des diplômés d'école de police. Plutôt mourir que des diplômés d'école de commerce. On a volé ta caméra et c'était une Sony. Et c'est pour ça que les cops te connaissent.
Combien ça coûte? Faut que je mange là, mais combien ça coûte? Combien ça coûte? Je sais que ça se vend ça, mais combien ça coûte? Ouais c'est pas rentable, mais combien ça coûte? Combien ça coûte?
Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches.